Pendant les journées de confinement en cellule, il y en avait au moins une par semaine, Maurice s'allongeait sur sa couchette, les mains croisées derrière la tête, et pensait au quatrième Jimmy Gold, se demandant s'il renfermait la rédemption qu'il avait tant espérée depuis le coureur ralenti. Était-il possible que Jimmy ait retrouvé ses vieux rêves et ses espoirs, sa fureur de vivre? Si seulement il avait eu 2 jours de plus avec les carnets, même un seul. Il doutait que même John Rothstein ait réussi à rendre un tel retournement plausible. D'après les observations personnelles de Maurice, ses parents étant ses principaux modèles, lorsque le feu s'éteignait, il ne se ranimait généralement jamais. Et pourtant, il arrivait que certaines personnes changent. Il se rappelait avoir suggéré cette possibilité à Andy Hallyday un jour, au cours d'une de leurs fréquentes discussions à l'heure du déjeuner. C'était au Happy Cup, juste au bout de la rue de Grissom Books, là où travaillait Andy. Et c'était pas longtemps après que Maurice avait laissé tomber la fac, décidant que ce qui passait là-bas pour de l'enseignement supérieur était des conneries dénuées d'intérêt. « Nixon a changé », avait dit Maurice. « L'anti-coco qu'il était a libéralisé les relations commerciales avec la Chine. Et Lyndon Johnson a fait passer le projet de loi pour les droits civiques au Congrès. Si une vieille hyène raciste comme lui est capable de changer de position comme ça, j'imagine que tout est possible. » Les politiques... Andy renifla comme s'il avait une mauvaise odeur dans le nez. C'était un gars maigrichon, aux cheveux coupés en brosse, à peine plus vieux que Maurice. Eux, ils changent par opportunisme, pas par idéalisme. Les gens ordinaires font même pas ça. Ils peuvent pas. S'ils refusent d'obéir, ils sont punis. Ensuite, après la punition, ils disent « Ok, oui, monsieur », et ils se plient au programme comme les bons petits robots qu'ils sont. Regarde les opposants à la guerre du Vietnam. La plupart d'entre eux vivent des vies de petits bourgeois maintenant. Gros et gras, heureux et républicains. Ceux qui ont refusé de se soumettre sont en prison. Ou en cavale, comme Catherine Ann Power. « Tu peux pas dire que Jimmy Gold est ordinaire !» s'exclama Maurice. Andy lui avait adressé un regard paternaliste. « Oh, je t'en prie, toute son histoire, c'est rien d'autre qu'une longue épopée vers le conformisme. Le but de la culture américaine, c'est de créer une norme, Maurice. Ce qui veut dire que les gens hors normes doivent être recadrés. Et c'est ce qui arrive à Jimmy. Il finit publicitaire, bordel! Si c'est pas les meilleurs agents de la norme dans ce pays de dégénérés, c'est le propos central de Rothstein. » Il secoua la tête. « Si c'est de l'optimisme que tu cherches, achète un roman Harlequin. » Maurice pensait qu'Andy dissertait simplement pour le plaisir de disserter. Des yeux de fanatique luisaient derrière ses lunettes à monture de corne. Mais Maurice cernait quand même l'homme. Il était fanatique des livres en tant qu'objet, pas des histoires et des idées qu'ils contenaient. Ils déjeunaient ensemble 2 à 3 fois par semaine, habituellement au Cup, d'autres fois en face de Grissom Books, sur les bancs publics de Government Square. C'était pendant l'une de ces pauses déjeuner qu'Andy Hallyday avait pour la première fois fait allusion à la rumeur persistante selon laquelle John Rothstein avait continué à écrire, mais que son testament précisait que tout devrait être brûlé à sa mort. « Non !» s'était écrié Maurice, sincèrement blessé. « C'est pas possible un truc pareil !» « Si ?» Andy haussa les épaules. « Si c'est dans le testament, tout ce qu'il a écrit depuis qu'il a disparu de la circulation vaut autant que des cendres. Tu dis des conneries. Le truc à propos du testament est peut-être qu'une rumeur, je te l'accorde, mais dans les cercles de libraires, il est largement admis qu'il n'a jamais arrêté d'écrire. « Les cercles de libraires ?» avait répété Maurice, sceptique. « On a notre propre téléphone arabe, Maurice. » C'est sa femme de ménage qui fait ses courses, ok? Et pas que la bouffe. Une fois par mois à peu près, elle va chez White River Books à Berlin, c'est ce qui se rapproche le plus d'une ville pas loin de chez lui, pour récupérer des livres qu'il commande par téléphone. Elle a raconté aux gens qui bossent là-bas qu'il écrit tous les jours de 6h du matin à 2h de l'après-midi. Le patron l'a répété à d'autres bouquinistes à la foire du livre de Boston, et la rumeur s'est propagée. « Bordel de merde !» avait murmuré Maurice. Cette conversation avait eu lieu en juin 1976. La dernière nouvelle publiée par Rothstein, « La parfaite tarte à la banane », était parue en 1960. Si Andy disait vrai, alors Rothstein accumulait inédit sur inédit depuis 16 ans. À ne serait-ce que 800 mots par jour, ça faisait... Maurice n'arrivait pas à compter, mais ça faisait beaucoup. Bordel de merde, comme tu dis, répéta Andy. S'il veut vraiment que tout soit brûlé à sa mort, il est complètement taré, comme la plupart des écrivains. Andy se pencha vers Maurice, le sourire aux lèvres, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire était une blague. Et peut-être que c'en était une, du moins pour lui. Tu veux que je te dise, quelqu'un devrait monter une mission de sauvetage. Peut-être même toi, Maurice. Après tout, t'es son fan numéro un ?
Pas moi, non, répondit Maurice. Pas après ce qu'il a fait à Jimmy.
Détends-toi, mec. Tu peux pas en vouloir à un homme d'avoir suivi son inspiration ?
Bien sûr que si.
Alors braque-le, répliqua Andy en souriant toujours. Appelle ça un vol de protestation pour la noble cause de la littérature américaine. Et ramène-moi les manuscrits.
Je les garderai un moment, puis je les vendrai. Si c'est pas du charabia de vieux gâteux, on pourrait en tirer jusqu'à $1 million. Je partagerai avec toi.
Moite-moite, mon pote.
On se ferait choper.
Je pense pas, avait répondu Andy à l'idée. Il y a moyen de faire ça bien.
Combien de temps tu devrais attendre avant de pouvoir les vendre ?
Oh, quelques années,
avait répondu Andy avec un geste désinvolte de la main, comme s'il parlait de quelques heures.
5, peut-être ?
Un mois plus tard, complètement écœuré de vivre dans Sycamore Street et hanté par l'idée de tous ces manuscrits inédits, Maurice chargea sa vieille Volvo et partit pour Boston, où il fut embauché par un entrepreneur du bâtiment pour la construction de plusieurs lotissements en banlieue. Le boulot l'avait presque tué au début. Puis il avait pris un peu de muscle. Pas qu'il ressemblerait jamais à Doug Duckworth. Et il s'en était mieux sorti après ça. Il s'était même fait 2 copains, Freddie Dow et Curtis Rogers. Un jour, il avait téléphoné à Andy.
« Tu pourrais vraiment en vendre des manuscrits inédits de Rothstein ?»«
Aucun doute, » répondit Andy à l'idée. « Pas de suite, comme je te l'ai dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On est jeunes, pas lui ? Le temps jouerait en notre faveur ?»
Ouais, du temps pour lire tout ce que Rothstein avait écrit depuis la parfaite tarte à la banane. L'argent, même un demi-million de dollars, était secondaire.
« Je suis pas un mercenaire, » se dit Maurice. « Je suis pas intéressé par le billet d'or. Cette connerie, c'est des conneries. Donnez-moi assez pour vivre. Juste un peu, comme une subvention. Et je serai plus qu'heureux. Moi, je suis un érudit. » Les week-ends, il se mit à aller jusqu'à Talbot Corners dans le New Hampshire. En 1977, il commença à emmener Curtis et Freddy avec lui. Peu à peu, un plan prit forme. Un plan simple, efficace. Le cambriolage de base. Les philosophes ont débattu du sens de la vie pendant des siècles sans jamais vraiment parvenir à la même conclusion. Maurice aussi s'était penché sur la question durant ses années de prison, mais son questionnement à lui était plus pratique que cosmique. Il voulait connaître le sens de « avis » d'un point de vue juridique. Et ce qu'il avait découvert était carrément schizo. Dans certains états, « avis » voulait dire exactement ça. T'étais censé être détenu jusqu'à ce que tu crèves, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans d'autres états, la libération conditionnelle était envisagée au bout de 2 ans à peine. 5, 7, 10 ou 15 dans d'autres. Dans le Nevada, elle était accordée, ou pas, selon un système de points compliqué. En 2001, la condamnation à vie moyenne d'un homme dans les prisons américaines était de 30 ans et 4 mois. Dans l'état où Maurice purgeait sa peine, les législateurs s'étaient basés sur des données démographiques pour inventer leur propre définition ésotérique de « avis ». En 1979, date de la condamnation de Maurice, l'Américain mâle moyen vivait jusqu'à 70 ans. Maurice, qui avait 23 ans à l'époque, pouvait donc considérer que sa dette envers la société serait payée dans 47 ans. Sauf si, bien sûr, on lui accordait la libération conditionnelle. Il y fut éligible pour la première fois en 1990. Cora Ann Hooper se pointa à l'audience. Elle portait un tailleur bleu propre. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon si serré qu'il couinait. Elle tenait un grand sac à main noir sur ses genoux. Elle re-raconta comment Maurice Bellamy l'avait alpaguée alors qu'elle traversait la ruelle bordant la Shooter's Tavern et lui avait confié son intention de s'en payer une tranche. Elle décrivit aux 5 membres de la commission des libérations conditionnelles comment il lui avait donné un coup de poing et cassé le nez lorsqu'elle avait réussi à déclencher l'alerte police qu'elle gardait dans son sac à main. Elle évoqua son haleine en pestant l'alcool et comment il lui avait écorché le ventre avec ses ongles en lui arrachant ses sous-vêtements. Elle leur raconta comment Maurice m'étranglait toujours et me brutalisait avec son organe quand l'officier Ellenton était arrivé et l'avait dégagé. Elle confia à la commission qu'elle avait essayé de se suicider en 1980 et qu'elle était toujours suivie par un psychiatre. Elle leur raconta qu'elle allait mieux depuis qu'elle avait accepté de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel, mais qu'elle faisait toujours des cauchemars. « Non, » répondit-elle à la commission, « elle ne s'était jamais mariée. L'idée d'avoir des relations sexuelles lui causait des crises de panique. » La mise en liberté sous condition fut rejetée. Plusieurs raisons étaient mentionnées sur le papier vert qu'on lui passa à travers les barreaux ce soir-là, mais celle qui figurait en tête de liste était clairement l'objection principale de la commission. La victime déclare souffrir encore des séquelles psychologiques et physiques de son agression. Salope. Hooper se présenta à nouveau en 1995, et encore en 2000. En 1995, elle portait le même tailleur bleu. À l'aube du nouveau millénaire, elle avait alors grossi d'au moins 20 kilos, elle en portait un marron. En 2005, le tailleur était gris et une grosse croix blanche pendait sur son buste toujours plus imposant. À chaque comparution, elle tenait sur ses genoux ce qui ressemblait au même grand sac à main noir. Son alerte police était probablement à l'intérieur. Peut-être aussi un gaz lacrymogène Mace. Elle n'était pas convoquée à ses auditions. Elle venait d'elle-même et racontait son histoire. La libération conditionnelle était rejetée. Objection principale figurant sur le papier vert, la victime déclare souffrir encore des séquelles psychologiques et physiques de son agression. « Cette connerie, c'est des conneries », se disait Maurice. « Cette connerie, c'est des conneries ». Peut-être bien, mais merde, il regrettait de ne pas l'avoir tuée. À l'époque de son troisième refus de conditionnel, Maurice était très sollicité pour son travail d'écrivain. Dans le petit monde de Waynesville, il était un auteur à succès. Il écrivait des lettres d'amour aux épouses et aux petites amies. Il en écrivait aux enfants de détenus, certaines confirmant d'une prose touchante l'existence du Père Noël. Il écrivait des lettres de motivation pour les prisonniers dont la date de libération approchait. Il rédigeait des rédactions pour les détenus qui suivaient des cours en ligne ou essayaient d'obtenir leur certificat de fin d'études. Il n'était pas avocat, mais il lui arrivait d'écrire à de vrais avocats au nom des prisonniers, expliquant avec pertinence chaque affaire et exposant les raisons de la demande d'appel. Certains avocats se laissaient impressionner par ces lettres et, pensant à l'argent qu'il pourrait se faire avec les indemnisations pour détention abusive si la demande aboutissait, acceptaient de reprendre l'affaire. Alors que l'ADN devenait d'une importance capitale dans les procédures d'appel, il écrivait souvent à Barry Scheck et Peter Neufeld, les fondateurs de l'Innocence Project. L'une de ces lettres conduisit à la libération d'un mécanicien auto et voleur à temps partiel du nom de Charles Robertson, emprisonné à Waynesville depuis 27 ans. Robertson obtint sa liberté. Maurice obtint la reconnaissance éternelle de Robertson, et rien d'autre, sauf si on comptait sa réputation grandissante, et ça, c'était loin d'être rien. Ça faisait longtemps qu'il ne se faisait plus violer.